par le Père Philippe à Saint-Joseph le 28 mai 85.
Nous essayons de voir toujours cette dernière semaine, la grande semaine, et d'essayer de comprendre les anéantissements de Jésus. Depuis le moment où il est arrêté, comme un prisonnier, comme un condamné, alors qu'il ne l'est pas, personne ne l'a condamné. Donc c'est un a priori, on l'a arrêté sans qu'il y ait de jugement. Et c'est ce qui explique, je crois, ce que l'évangile de Saint Jean nous montre. Jésus veut nous faire comprendre qu'il accepte librement d'être considéré comme un brigand. Et c'est pour ça que la toute-puissance de Dieu est à son service lorsqu'il les terrasse. Donc, il est traité comme un criminel qu'on arrête. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de liberté civique. Et comme la liberté civique est liée à la liberté religieuse pour le peuple d'Israël, il n'a plus de liberté communautaire, politique. Il est arrêté par le grand prêtre, par les gardes et Judas au nom du grand prêtre. Et on le voit tout de suite dans le fait qu'on le conduit devant Anne et Caïphe. Et nous voyons bien que là, Jésus ne veut pas répondre. Pourquoi ? Parce que, de fait, Anne et Caïphe ont perdu leur autorité, puisqu'ils ont fait quelque chose contre la loi. Ils ont gardé leur pouvoir et n'ont plus l'autorité religieuse. Et c'est pour ça que Jésus ne veut pas répondre. C'est une complicité. Et ça explique aussi cette attitude de Jésus, si nette. Lorsqu'un serviteur lui donne une gifle, Jésus n'offre pas son autre joue. Alors qu'il a dit, quand on vous donne une gifle, offrez-vous, offrez l'autre joue. Pas toujours. C'est ça que ça veut dire. Quand on vous donne une gifle et que vous offrez l'autre joue, si Jésus avait fait ça, ça aurait été une complicité. C'est très très mystérieux. C'est très très important, vous voyez. Ne pas imiter matériellement Jésus et les saints. On doit entrer dans l'intention profonde des cœurs. La lettre tue. L'Esprit seul vivifie. Et c'est pour ça que dans l'Évangile, on voit constamment, et c'est ce que les pères de l'Église ont saisi, c'était le début de la théologie, ça, de voir que de fait, on ne devait pas rester uniquement du côté de l'extérieur, c'est-à-dire un aspect descriptif. Je vous ai déjà signalé, à la fin du chapitre, dans le chapitre 6, après la multiplication des pains, Jésus, voyant qu'on voulait le proclamer roi, s'enfuit tout seul dans la montagne. Et quand, le jour des rameaux, on vient au-devant de lui en le proclamant roi, Jésus va au-devant de la foule. Donc, deux attitudes totalement différentes. Et des deux côtés, c'est la proclamation qu'il est roi. Alors, Jésus, au chapitre 6, refuse parce qu'on le proclame roi pour avoir du bon côté l'efficacité. On aura tous les jours du pain gratuitement. Alors évidemment, c'est merveilleux. Oui, messianisme temporel. Jésus n'est pas venu pour donner la soupe tous les jours. Ça ne veut pas dire que certains ne doivent pas donner la soupe aux pauvres. Hein. C'est. Mais Jésus n'est pas venu pour ça en premier lieu. Et si on veut le prendre pour cela en premier lieu, Jésus dit non. Et théologie de la libération. Qu'est-ce qui est premier ? Qui ne refuse pas les choses secondes ? Et toute la question, c'est une question d'or. C'est toujours une question d'or. Le démon n'invente rien, mais il met un désordre. C'est-à-dire que là où quelque chose doit être second, il le met premier. Et là où quelque chose est premier, il le met dernier. Je sais bien que Jésus fait des choses semblables, puisque on les chante aujourd'hui. Celui qui est le dernier deviendra le premier, puis le premier deviendra le dernier. Là, c'est un désordre aussi complet. Ah, mais ça, c'est l'ordre de la sagesse. Vous voyez, comme c'est complexe, hein, quand on prend les choses, si on les prend matériellement, tu ne comprends plus rien du tout. Le propre du démon, c'est de désorganiser tout le temps. Ce qui est très intéressant, parce que c'est quand même très unique, c'est la seule fois où Jésus s'est trouvé devant les autorités religieuses d'Israël. La seule fois. Les autorités religieuses d'Israël auraient dû convoquer Jésus plus tôt. Il semble bien, d'après le texte de l'Écriture. On avait été au-devant de Jean-Baptiste. Il y avait eu une visite canonique auprès de Jean-Baptiste. Il n'a jamais fait de visite canonique auprès de Jésus. Tandis que pour Jean-Baptiste, on a fait une visite canonique. On a envoyé des lévites et des prêtres savoir qui il était. Tandis qu'à l'égard de Jésus, non, ça a toujours été des réflexions, des on-dit. Alors vous savez où ça va, ça, hein ? Quand on écoute une communauté, ça va, l'un dit ça sur tel autre, l'autre dit ça, et alors c'est effrayant. Hein, vous avez, au bout d'un certain temps, vous ne pouvez plus rien savoir du tout. Les grands prêtres auraient dû, étant donné l'importance des affirmations de Jésus. Et la seule fois où les grands prêtres se trouvent en face de Jésus, c'est lorsque Jésus est ligoté comme un malfaiteur. Et Nicodème avait fait la remarque : notre loi nous interdit d'arrêter quelqu'un sans l'avoir interrogé. Autre chose est de convoquer quelqu'un, autre chose est de l'arrêter. C'est pas la même chose. C'est très bien quand on confond les deux. De quel genre de système on a, de quel genre de régime politique on a. On a arrêté Jésus. Et Jésus se trouve devant les grands prêtres dans une situation de quelqu'un qui n'est plus libre. Et ça explique l'attitude de Jésus, qui ne veut pas répondre. Quand on vous met dans un certain conditionnement particulier et que vous n'êtes plus libre, vous n'avez pas le droit d'être complice. Ça, c'est une des choses les plus étonnantes, je crois, quand on regarde attentivement l'Évangile, de voir que Jésus n'a jamais voulu être complice d'une injustice. Ça, c'est la rectitude profonde du cœur du Christ. Il agit toujours miséricordieusement, mais il est farouche quand il s'agit d'injustice. Injustice religieuse ou injustice tout court. Et ici, c'est un des cas où c'est très très beau à voir. Pendant que Jésus est interrogé par Anne et Caïphe, Pierre renie. Pas très loin, tout proche. Puis nous avons ce grand silence de la nuit. Quel genre ne dit rien. On amène donc Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. On souligne ça. Alors, le matin, je ne sais pas à quelle heure on pouvait déranger quelqu'un comme Pilate. Je ne sais pas si historiquement on veut le savoir. C'est vrai, on voit très bien aujourd'hui à quelle heure on peut déranger quelqu'un comme Pilate. Vous ne voulez pas le déranger au lever du soleil, c'est bien évident. On dérange à une certaine heure, les heures. Alors, on voit que Jean souligne ces choses-là. Et c'est intéressant parce que ça fait comprendre le moment qui a existé entre Jésus en face des grands prêtres Puis Jésus, sans doute dans sa solitude de la nuit. Toujours est-il que c'est net. On le conduit à Pilate. On le conduit à Pilate avec une intention très nette de pouvoir le condamner à mort. C'est pour ça qu'on le conduit à Pilate. Si ça avait été simplement la flagellation que les Juifs pouvaient donner, un certain nombre de coups, ben, il n'aurait pas conduit à Pilate. On le conduit à Pilate pour pouvoir le condamner à mort. Pilate n'a pas mal agi envers Jésus. De sorte que Jésus va lui répondre. C'est pas du tout parce que Jésus est complice de Pilate, hein, parce que Jésus aime mieux Pilate et qu'il n'aime pas les autorités religieuses. Non, non. Jésus aime plus les autorités religieuses que les autorités temporelles. Ça, c'est bien évident. Mais vis-à-vis des autorités religieuses qui n'ont pas été ce qu'elles auraient dû être, alors Jésus prend ses distances. Il est correct, il prend ses distances. Vis-à-vis de Pilate, autorité politique, qui n'a pas mal agi, Jésus va pouvoir préciser le sens de sa mission. Il ne l'a pas précisé du tout devant les grands prêtres. Alors qu'il semblerait à première vue qu'il aurait dû la préciser en face des grands prêtres. Non. Les grands prêtres ont un a priori tel contre Jésus qu'ils ont commis une faute contre la loi. Et Jésus le sait. Ils sont donc incapables de recevoir la parole de Jésus. Parce que c'est ça qui est de très très grand, c'est de voir que toujours Jésus regarde les intentions des cœurs. Et sa vie apostolique, c'est toujours de convertir le cœur et l'intelligence. Et quand on est en face de quelqu'un qui a des a priori tels que ceux qui sont les gardiens de la loi vont contre la loi, plus qu'une seule chose à faire, c'est de se taire. On voit très bien la situation. Ce serait très intéressant de voir des situations analogues aujourd'hui. Quand on est devant ces situations-là, on n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est se taire. Pas la peine de parler, ça augmente le trouble et la confusion. Tandis que vis-à-vis de Pilate, Pilate n'a pas d'a priori contre Jésus. Un peu agacé, mais pas contre Jésus, agacé parce que ça devait arriver de temps en temps, des petites querelles, on devait réveiller Pilate le matin, on devait lui demander de faire le juge. On le voit bien, ce petit mécontentement du début. Hein. Pilate leur dit, prenez-le, vous, et jugez-le selon votre loi. Ça veut dire, non, ça ne me regarde pas, ce sont des querelles religieuses, ça ne me regarde pas, ça c'est leur romain. Ça n'a rien à voir avec moi, ça c'est vous qui devez régler cette question entre vous. Les Juifs lui disent, il ne nous est pas permis de faire mourir quelqu'un. C'est pour que la parole de Jésus s'accomplit, celle qu'il avait dite pour signifier par quel genre de mort il devait mourir. Alors, nous avons ce dialogue avec Pilate. Je vous ai dit, c'est très important, ça correspond à la lecture du réfectoire de midi. Hein. Se rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. La question du lien entre le pouvoir politique, l'autorité politique et l'autorité religieuse. Grave question, hein. Toujours très difficile et terriblement complexe. Et je crois que ce dialogue de Jésus avec Pilate est très important pour ça. Parce que la grande majeure, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est très très beau, c'est magnifique, hein, comme discernement. Mais voyez les applications. Hein. grande lumière qui nous montre qu'il y aura toujours deux autorités, une autorité divine de fort interne, une autorité de fort externe. Et que dans l'autorité de fort externe, il pourrait y avoir des mélanges, il pourrait y avoir des aspects multiples et divers. Ici, il y a quelque chose de plus. C'est la mission même du Christ. Et de savoir dans quelle mesure cette mission doit s'enraciner dans un point de vue temporel. C'est quelque chose de beaucoup plus important d'une certaine manière. C'est vu du côté du Christ, de Jésus, et sa mission. C'est pour ça que ce texte est difficile, il est très beau. Alors, je reprends, si vous voulez, on m'a demandé de le reprendre, c'est pour ça que je le reprends, parce que je crois que c'est quand même beau au point de vue théologique d'essayer de comprendre ce qui est impliqué ici. Premièrement, Jésus commence par corriger Pilate. C'est beau de voir Jésus corrigeant celui qui exerce l'autorité. Pilate exerce mal l'autorité, en bon romain. Fait des confusions. Quand on a le pouvoir, quand on a l'autorité, très facilement on fait des confusions. On est habitué à l'exercer et alors on ne l'exerce plus comme on devrait l'exercer. L'exercice de l'autorité regarde la prudence et la prudence politique. C'est pour ça que c'est très important. C'est la prudence politique. Or, une prudence politique implique nécessairement, quand il s'agit d'une accusation, de connaître celui qui est accusé. On le connaît ou par la médiation des autres ou par une expérience directe. Et on doit le signaler dans l'interrogation qu'on pose. C'est toi le roi des Juifs. Vous voyez, c'est une parole très directe, mais pas la parole de celui qui exerce l'autorité. C'est pas la même chose, le langage de celui qui exerce l'autorité et de celui qui simplement fait une constatation. Puis l'autorité, n'importe qui, un des soldats, il aurait le droit de dire « c'est toi le roi des Juifs ?» Tout à fait. Mais il n'a pas le droit de dire ça comme ça, en tant qu'exerçant l'autorité. Oui, comme c'est très très important ces choses-là, moi je crois, pour tous ceux qui doivent exercer l'autorité. À tous les plans, même l'autorité sur les casseroles. Parce que c'est quand même une autorité. Une certaine autorité. Celui qui exerce l'autorité, dans l'exercice même de l'autorité, c'est l'œuvre de la prudence. Or, la prudence est une vertu intellectuelle. C'est une vertu de l'intelligence, la prudence. Il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas une vertu uniquement du cœur. Il ne faut pas dire, moi j'exerce l'autorité avec un très grand amour, une très grande générosité, ça me suffit. Non. On doit exercer l'autorité avec intelligence. Donc avec lucidité, on doit savoir exactement ce qu'on dit. Si on ne le sait pas, on exerce mal l'autorité. C'est ça que c'est pas si commode que ça d'exercer l'autorité. C'est bien ce que Jésus répond tout de suite. Est-ce de toi-même que tu dis cela? La phrase que tu dis, ça repose sur quoi? C'est une conclusion qui repose sur quoi? Pilate n'a pas pensé à ça du tout. Hein. Je crois que c'est la première fois qu'un accusé fait une remarque comme ça à quelqu'un comme Pilate. D'habitude, on se met plutôt du bon côté, de faire des petites risettes, hein, et puis de se mettre de bon côté. Pas du tout, Jésus ne fait pas ça du tout. Jésus veut aller jusqu'au bout du témoignage de la vérité. Je suis venu rendre témoignage à la vérité, même à Pilate, dans son exercice d'autorité. Il rend témoignage à la vérité. Et il apprend à Pilate ce que c'est qu'exercer la vérité. L'autorité à un Romain. C'est très beau, ça. Alors, vous voyez, ça ne s'explique pas, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que vous dire, oh, ça c'est César, je le laisse tranquille. Pas du tout. C'est un homme. Pilate est un homme. Et Jésus est venu pour tous les hommes. Et donc il aime Pilate. Parce que c'est un homme. Et un homme doit exercer l'autorité en homme, qui a le pouvoir, qui a l'autorité, et donc il y a une prudence. Et Jésus tout de suite saisit, alors c'est ça toujours aussi, le point vulnérable. C'est une des choses les plus étonnantes. Hein. Jésus saisit toujours le point le plus vulnérable de chacun devant lequel il se trouve. Là, vous voyez, quand il serait en face de vous, chacun d'entre vous, le point vulnérable. Vous auriez beau le cacher, il n'y a pas de danger. Il serait tout de suite vu. Et la moindre phrase que vous direz, il serait un petit peu à côté, et Jésus reprendrait. C'était ce que faisait Marthe. Je vous l'ai déjà dit. C'est une des choses les plus frappantes de Marthe. C'est quand on disait quelque chose qui n'était pas tout à fait juste, Marthe faisait la petite remarque avec un respect extraordinaire. Et quand elle parlait d'autres qui parlaient, je me souviens de certains jugements de Rome, elle disait « Ah, ce qu'ils sont durs, ce qu'ils sont durs, avec tout le respect que je leur dois. » C'était la petite paysanne qui disait « Avec tout le respect que je leur dois. » Mais elle disait son sentiment profond « Je ne vois pas la miséricorde. » Quand on exerce l'autorité au point de vue chrétien, la miséricorde doit toujours être présente à travers la justice. Alors, évidemment, Pilate n'est pas chrétien. Et donc, ce qu'on lui demande, c'est la justice et la prudence. On ne peut pas exercer l'autorité sans la justice et sans la prudence. Or, ici, Jésus va le rectifier du côté de sa prudence. C'est assez extraordinaire, ça. Parce que j'avoue que nous avons... Ils n'auraient rien dit. Hein. Tout de suite. Est-ce de toi-même que tu dis cela? Pilate aurait pu dire, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ah oui, c'est très important. Parce qu'on ne juge pas de la même façon quand on s'est fait soi-même, vous voyez, son opinion, son jugement, ou bien quand son jugement repose sur un autre. Vous voyez comme c'est important, ça, dans notre vie de charité fraternelle. Quand on se met à juger quelqu'un, on a entendu, puis au bout d'un certain temps, on oublie que c'est l'opinion de la voisine, et on a absorbé ça comme c'était soi-même. Et on le dit, c'est toi le roi des Juifs. Quand vous y arrivez un frère, ah, c'est toi celui qu'on veut. Si on ne le connaît pas, on doit dire que l'opinion qu'on s'est faite de quelqu'un repose sur les dires de ceux de tel ou tel. Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi? Jésus sait très bien que Pilate ne le connaît pas. Et donc que Pilate n'a aucune opinion sur Jésus, aucune opinion propre, personnelle. Donc c'est uniquement par rapport à ce qu'on a pu lui dire de lui. Mais Jésus veut que Pilate reconnaisse là qu'il a fait une erreur, une petite confusion, qu'il était trop vite, qu'il n'a pas parlé avec l'autorité qu'il devait avoir. Parce que plus l'autorité est élevée, plus les confusions sont dangereuses. Et on comprend très bien. Quand vous avez une toute petite autorité, les confusions entre les casseroles, c'est moins important, n'est-ce pas ? Mais quand vous avez une autorité très profonde, alors à ce moment-là, sur les personnes, quand vous pouvez condamner quelqu'un, et quand votre jugement pourra condamner quelqu'un, ça c'est le jugement suprême, quand il porte sur la vie et la mort d'une personne humaine. C'est le jugement suprême. C'est pour ça que dans toutes les royautés, même conventionnelles, le pouvoir suprême du roi, c'est de pouvoir toujours absoudre. C'est la seule chose qui reste dans certaines royautés. C'est ce dernier jugement, le dernier jugement qu'on porte sur une personne. C'est beau ça, parce que ça fait comprendre en définitive ce que c'est qu'être roi. Être roi, ce n'est pas le pouvoir. C'est le discernement ultime sur une personne. Une personne qui vous est soumise. C'est le discernement ultime. Sauver ou au contraire condamné. Rattraper une condamnation en sauvant, au contraire laisser. Vous voyez, la royauté, en définitive, repose sur une question de discernement et de jugement prudentiel à l'égard de la vie et de la mort. Ça, je crois que c'est cela qui nous fait comprendre ce que c'est que l'autorité royale, c'est-à-dire l'autorité suprême, au-delà de quoi il n'y a rien. Parce que c'est ça que Jésus va faire comprendre à Pilate. Pilate va se gonfler un tout petit peu. Il va croire qu'il est l'autorité suprême. Non, pas du tout. Jésus le dérange. Seconde correction qu'il doit faire. Première correction, c'est du côté de l'intelligence. Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit. On voit très bien qu'il est un petit peu agacé. Hein, il n'est pas habitué de recevoir des petites corrections fraternelles. C'est sa situation, c'est je ne suis pas habitué. Est-ce que je suis juif, moi? Tout de suite, ce n'est pas la question. Tombe complètement d'un côté. C'est la question de son autorité. Est-ce que je suis juif, moi? Alors, il répond ensuite, hein, mais le premier mouvement est à côté. Ce qui est toujours normal, quand on est un peu sous le point de vue d'une émotion et puis un peu la susceptibilité, là notre première réaction de défense est toujours à côté. La seconde réaction est vraie. C'est ta nation, les grands prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Ah, voilà la première question qu'il aurait dû poser. Qu'as-tu fait? Tandis qu'il a tout de suite pris la conclusion. Tu es roi. Vous voyez la rectification que Jésus fait par rapport à celui qui exerce l'autorité. C'est très important. Quand on exerce l'autorité, on exerce une sagesse prudentielle. Et quand on exerce cette sagesse prudentielle, il y a un ordre dans les interrogations. Il ne s'agit pas de mettre la dernière, qui est la conclusion, en premier. Qu'as-tu fait? Première chose à demander. Jésus répondit. Mon royaume à moi n'est pas de ce monde. Jésus se présente. Il se présente. Qu'as-tu fait? Avant même de l'action, il y a la personne. Qui es-tu? Pilate aurait dû dire ça. Qui es-tu? Qu'as-tu fait? C'est encore un tout petit peu trop rapide. Et Jésus ne répond pas directement là-dessus. Mon royaume à moi n'est pas de ce monde. Si mon royaume à moi était de ce monde, mes gens à moi auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais non, mon royaume à moi n'est pas d'ici. Donc Jésus se situe tout de suite comme étant quelqu'un qui échappe à la juridiction de Pilate. C'est extraordinaire. Il ne tombe pas sous la juridiction de Pilate. Erreur de personne. On dirait ça au point du doigt, c'est un mot. Erreur de personne. Pilate croit avoir une autorité sur lui, pas du tout. Mon royaume à moi n'est pas ce monde. Jésus est d'un autre royaume. Et son royaume n'est pas de ce monde. C'est la première chose, vous voyez, qu'il dit à Pilate. Parce qu'il y a une confusion dans Pilate. Comme une confusion, tous ceux qui sont autour de Jésus. Mon royaume n'est pas de ce monde, si mon royaume. Alors, pour lui faire comprendre, alors cette logique merveilleuse, hein, un peu stoïcienne, hein, si mon royaume à moi était de ce monde, mes gens à moi auraient combattu. Si c'était un bien qu'on devait garder, on aurait combattu pour ça. C'est bien évident. On combat pour un bien qu'on veut garder. Autrement, ce n'est pas la peine. Mes gens à moi auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais non, mon royaume à moi n'est pas d'ici. Puis là, tu dis... Alors là, il est ému. Hein. Puis là, tu dis, tu es donc roi? foi. Jésus dit, parle comme s'il avait un royaume. Un royaume qui échappe à Pilate. Un royaume qui n'est pas d'ici. Tu es donc roi, toi ? Jésus répondit, c'est toi qui le dis. Je suis roi. Alors voilà les affirmations que nous retrouvons. Enfin, comme Jésus dit, je suis le pain de vie. Comme Jésus dit, je suis la porte, je suis le berger, je suis roi. Donc, c'est la personne du Christ, hein, je suis. Ego eimi, je suis. Je suis roi, moi. C'est pour cela que je suis né. Et c'est pour cela que je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Donc on voit que cette royauté est tout de suite liée au témoignage de la vérité. Ça, c'est le propre de cette royauté divine du Christ. Aucun roi de la terre ne peut dire ça. Alors vous voyez, vous avez une notion analogique du roi, hein, pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez une notion analogique du roi. Qu'est-ce que c'est que d'être roi ? Là, c'est un lieu très très beau pour voir ça. Le roi d'un royaume temporel, c'est pas premièrement rendre témoignage à la vérité, sauf chez Platon. Pour Platon, le roi, c'est celui qui rend témoignage à la vérité, puisque le roi doit être contemplatif. C'est très curieux. C'est toujours très intéressant de voir ces rencontres de la révélation et de Platon. C'est très très curieux, c'est très intéressant, parce que ça explique des tas de confusions qui ont pu se faire ensuite. Vous voyez, c'est merveilleux. On pose de l'un à l'autre, alors on tombe dans une espèce d'univocité, oubliant complètement l'analogie. Parce que le roi de Platon n'est pas du tout Jésus, hein. C'est tout à fait autre chose, c'est tout à fait différent. C'est tout à fait... Mais il y a un petit quelque chose de commun. C'est que pour Platon, la royauté repose sur la contemplation et que Jésus est contemplatif et qu'il est roi. Alors, est-ce que la royauté de Jésus repose sur sa contemplation ? Je renverse la chose. La royauté de Jésus repose sur quoi ? Quel est le fondement de la royauté du Christ ? C'est une très belle question théologique, ça. Quel est le fondement de la royauté du Christ ? Parce que la royauté du Christ... Ça n'a pas été traité tellement. Regardez dans saint Thomas. Saint Thomas parle de Jésus tête. Il ne parle pas de Jésus roi. Pourquoi ? Alors, est-ce que c'est proprement un sujet de théologie mystique ? Toujours la même question de l'analogie. Est-ce que la royauté, entre la royauté du roi César et la royauté de Jésus, est-ce une analogie propre ou une analogie métaphorique? C'est capital cette question, hein, c'est très capital cette question. Alors il faut que vous voyez bien ce que ça veut dire quand j'interroge de cette manière-là. Parce que c'est peut-être cela qui nous fait comprendre le mieux pourquoi, pour lire en profondeur l'écriture, ben, il faut que notre intelligence soit un tout petit peu éduquée. Et éduquer philosophiquement, ça ne fait pas de mal. Parce que si je n'ai plus ça, je confondrai tout le temps les analogies propres et les analogies métaphoriques. Et dès qu'on commence à confondre les analogies propres et les analogies métaphoriques, on ne sait plus ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on peut tout dire. Parce que quand on ne sait plus ce qu'on dit, on peut tout dire. Alors, l'analogie propre, c'est dire... Dieu est vérité. Et tel jugement est vrai. Le mot vrai pour tel jugement et le mot vérité appliqué à Dieu, c'est une analogie propre. D'attribution, c'est bien évident, d'attribution. On passe du fini à l'infini. Mais c'est une analogie propre. Il y a quelque chose de commun qui existe entre les deux. on est devant une analogie de proportion, de proportionnalité et d'attribution. Mais c'est une analogie propre. Le quelque chose de commun à la vérité par rapport au jugement se retrouve dans l'intelligence de Dieu. Dieu est vérité. La vérité, c'est ce qu'on dit conforme à la réalité. Eh bien, ce qu'on dit, ce que Dieu contemple, ne fait qu'un avec son être. Et donc Dieu est vérité. La manière dont Dieu est vérité est totalement différente dont le jugement est dit vrai. Mais il y a quelque chose de commun qui est propre. Et c'est pour ça que je peux dire que c'est une analogie propre. Oui. La vérité en Dieu, c'est l'identité. La vérité dans un jugement n'est pas une identité. C'est une conformité, une adéquation d'une opération vitale à la réalité, à la signification qui est dans le concept et la réalité. Donc, c'est une vérité qui implique une adéquation. Tandis que de l'autre côté, ce n'est pas une adéquation. En Dieu, c'est une identité. En Dieu seul, l'ordre de l'intelligibilité, l'ordre de la réalité ne font plus qu'un. Donc c'est tout à fait différent, la vérité en Dieu et la vérité dans mon jugement philosophique. C'est tout à fait différent. Allô, allô. Vous voyez ? C'est tout à fait différent. Il y a quelque chose de commun, c'est que c'est ce qui exprime la qualité propre de l'intelligence et de la vie intellectuelle, la vérité. Mon intelligence n'est parfaitement elle-même que quand elle est vraie. Alors elle est en acte. Mon intelligence, quand elle n'est pas vraie, n'est pas totalement elle-même. Elle est encore en devenir. Je cherche. Hein, aujourd'hui, c'est à la mode. Vous voyez, c'est la puissance qui est à la mode. L'être en puissance. On aime beaucoup mieux les êtres en puissance que les êtres en acte aujourd'hui. On n'aime pas les êtres en acte. Parce que ils sont des mesures pour ceux qui sont en puissance. Et c'est pour ça qu'on ne les aime pas du tout. On a une espèce de... On veut les rejeter le plus qu'on peut. Tandis que quelqu'un qui dit « je suis en recherche ». Quand vous dites « je suis en recherche », je dis « je ne suis pas encore dans la vérité. Je suis un errant, je cherche. Je cherche mon chemin, je cherche la vérité. » Jésus dit « je suis venu rendre témoignage de la vérité ». Il n'a pas dit « je suis venu pour chercher la vérité ». Non. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Un témoin, c'est quelqu'un qui a trouvé. Celui qui cherche n'est jamais un témoin. Alors voyez, quand l'Église se met en état de recherche, elle ne témoigne plus. C'est affolant. Quand on essaie de comprendre un peu ça, en profondeur, parce que c'est ça que ça veut dire, quand on est témoin, on est en acte. On a découvert la vérité. Et on rend témoignage. Et on rend témoignage dans la vérité. Tandis que celui qui est en recherche, quand vous passez un examen, quand on vous pose une question difficile, n'est-ce pas, vous dites « Ah, je suis en recherche ». Ça veut dire « Ne m'interrogez pas plus. Je n'ai pas découvert, je ne sais pas du tout quelle est la vérité. Je suis en recherche. » Alors, qu'en nous, il y ait toujours une recherche, c'est vrai. Mais il y a aussi l'acte. Si on est intelligent, il y a l'intelligence qui a découvert la vérité et on rend témoignage de la vérité qu'on a découvert, qu'on possède en nous. Le croyant est un témoin. Il n'est pas premièrement un chercheur. Le croyant est premièrement un témoin. Il est témoin de la vérité. C'est très important, ça, parce que on glisse, hein, vous voyez. C'est tout simplement le primat du devenir sur l'être. Quand vous dites en premier lieu, je cherche, et que vous refusez d'être un témoin, c'est le primat du devenir sur l'être. Et au terme, c'est supprimer l'être. Parce que c'est supprimer la vérité, c'est supprimer l'acte, c'est d'accepter uniquement d'être en puissance. Mais c'est important, c'est pour ça que j'analyse un peu ce passage, c'est un passage qui est tellement grand. Quand Jésus dit qu'il est venu rendre témoignage à la vérité, c'est quand même extraordinaire ça. C'est une vision merveilleuse du sacerdoce du Christ, quoi. Ça fait partie du sacerdoce du Christ. Il est grand prêtre et ce grand prêtre est venu rendre témoignage à la vérité. Qu'est-ce qui rend témoignage à la vérité aujourd'hui? Ils sont tous en recherche. Il ne rend plus témoignage à la vérité. Qu'il y a en nous toujours une recherche, très très bien, ça il le faut, c'est comme ça qu'on grandit. Il y a toujours en nous une recherche, mais c'est second. Nous vivons d'abord de la contemplation. Celui qui contemple, il n'est pas en recherche. Si vous étiez en recherche, vous ne devriez pas faire d'oraison le matin, vous devriez faire des méditations. Celui qui médite, il peut être en recherche. Celui qui fait oraison, il a découvert l'amour. Et il veut vivre de l'amour. C'est pour que vous saisissiez ces choses-là dans leur tout à fait pratique. Parce que c'est ce que nous voyons, nous, au point de vue spéculatif. Ça peut sembler très lointain, mais non, ça commande toute notre vie. La distinction de l'être en acte et d'être en puissance, ça commence toute notre vie. Alors, certains mettent la puissance avant l'acte. Je suis en recherche. Et d'autres disent, je suis témoin. Il faudrait mettre une fois les chercheurs et les témoins l'un en face de l'autre. Ce sera assez amusant. Ceux qui disent en premier lieu, je suis témoin. Et ceux qui disent en premier lieu, je suis en recherche. Et au point de vue humain, je comprends très bien qu'on soit en recherche, on l'est toujours à cause de notre conditionnement. Mais du côté de la foi, on est premièrement des témoins. Vous voyez, ça, c'est tout l'évangile de Saint Jean. Tout l'évangile de Saint Jean qui montre que la foi fait de nous des témoins. Parce que nous adhérons à la vérité. Nous ne la cherchons pas, nous y adhérons. Adhérer à la vérité nous permet d'être témoins. Alors, je continue, hein. Pour essayer de comprendre un peu ce que dit Jésus à Pilate. C'est quand même quelque chose de très très fort. Mon royaume à moi n'est pas de ce monde. Si mon royaume à moi était de ce monde, mes gens à moi auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs. Il faut bien montrer là, Jésus se met en dehors. Hein. Dès que le peuple juif a agi vis-à-vis de lui qui était en dehors de la loi, Jésus se met en dehors. Mais non, mon royaume à moi n'est pas d'ici. Puis là, tu dis, tu es donc roi, toi. C'est toi qui le dis, répond Jésus. Je suis roi. Alors, je reviens, l'analogie propre et l'analogie métaphorique. Est-ce que quand Jésus dit je suis roi, c'est une analogie propre ? Ou est-ce que quand Jésus dit « je suis roi », c'est une analogie métaphorique ? Quand Jésus dit « je suis le pain », est-ce que c'est une analogie métaphorique ou une analogie propre ? Quand Jésus dit « je suis le pain » et que « je suis le pain véritable », c'est une chose très importante à saisir, ça, qui est difficile, hein, c'est pas commode du tout. C'est pas commode du tout à bien saisir. Dès qu'on est en face d'un langage symbolique et que le symbolisme demeure, je suis en face d'un langage métaphorique, symbolique. Et je ne suis pas en face d'un langage d'analogie propre scientifique. Seule l'analogie propre permet la science. L'analogie métaphorique et symbolique permet la théologie mystique. Mais la théologie mystique n'existe que si la théologie scientifique. Alors aujourd'hui, une des grandes tentations, c'est de dire tout le langage de l'écriture n'est que métaphorique et symbolique. Donc pas de théologie scientifique. Je l'ai entendu de mes propres oreilles, je ne dis pas de qui, mais c'est quand même quelqu'un qui est assez connue dans le monde des théologiens. Ouvertement, pas de théologie scientifique, uniquement une théologie métaphorique et symbolique. Parce que il n'y a pas d'analogie, et il ne le disait pas ça, j'ajoute, parce qu'il n'y a pas d'analogie propre. Alors, comment discerner l'analogie propre et l'analogie métaphorique? L'analogie métaphorique, c'est très souvent dans le problème de la proportionnalité. Dans l'ordre de la proportionnalité, ce que je disais tout à l'heure, ce que vous avez vu tout à l'heure. Alors, je crois qu'il y a analogie métaphorique chaque fois que la signification profonde et la signification propre d'une notion est reliée à un aspect du devenir, un aspect sensible. Vous vous souvenez, on avait posé la question, déjà, je reviens pour que les mémoires se rappellent, on avait dit la lumière. Dieu est lumière. Est-ce que c'est un langage métaphorique ou un langage d'analogie propre? Lumière, fin, porte. Berger. C'est le bon pasteur, berger. Roi. Est-ce que tout cela, ce sont des analogies métaphoriques? Regardez, c'est une chose très très simple à voir, il suffit de regarder la somme théologique de saint Thomas. Je crois que saint Thomas a retenu toutes les analogies propres et a laissé tomber les analogies métaphoriques. Mais il les a laissé tomber, comprenez bien, ça ne veut pas dire du tout, ça n'a aucun intérêt, pas du tout. Saint Thomas sait très bien qu'il faut une théologie symbolique, il le dit lui-même. Il faut une théologie symbolique. Il le dit dans son commentaire des noms divins. Et la théologie symbolique, c'est la théologie mystique. La théologie mystique est symbolique. Elle n'est plus scientifique. Alors, elle récupère tous ces symbolismes. C'est sûr que quand on parle de l'amour, on parle toujours avec un langage symbolique. C'est pour ça que c'est si difficile de parler de l'Esprit Saint en dehors des symboles. Avec les symboles, ça va très bien. Et c'est pour ça que saint Jean de la Croix aime tellement ce langage symbolique. Sauf quand il dit que les religieux doivent se séparer de leurs parents. Ça, c'est plus symbolique, n'est-ce pas ? Et quand le langage symbolique, c'est d'exprimer justement une réalité, une notion qui est liée à quelque chose de sensible. Je crois que toute notion, toute signification de tel terme, qui est liée à quelque chose de sensible, je crois, ne peut être que symbolique et n'est pas une analogie propre. Tandis que toute notion dont la signification est au-delà du point de vue sensible et peut uniquement se ramener à l'être, alors c'est une notion qui peut être une notion d'analogie propre. Mais parallèlement à son été, par exemple, je vais vous en donner toute une série, c'est très simple, bon, Dieu est absolument saint. Dieu est parfait. Dieu est bon. Dieu est vrai. Dieu est un. Dieu est tout puissant. Je crois que là, je suis en face d'analogie propre. La signification de un. La signification de vrai, Dieu est vrai, la signification de bon, implique des notions qui n'ont aucune référence au sensible. Donc, ils sont reliés directement à l'être, ce qui est. En tant qu'être, vous voyez la métaphysique comme c'est nécessaire. Hein? Tandis qu'au contraire, toutes ces notions sont reliées au devenir. Partage des autres, l'être et devenir. Toute notion qui est liée, toute signification qui est reliée au sensible est reliée au devenir. Et donc, ne peut fonder qu'une analogie symbolique, métaphorique. Métaphorique ou symbolique, c'est la même chose. Hein. Ça fait appel à une métaphore, mais les métaphores sont multiples. Ça veut dire que ça fait appel à quelque chose de sensible. Et ça fait appel à une notion symbolique. Donc ce n'est plus scientifique. C'est une théologie symbolique et une théologie mystique. C'est la théologie de l'amour. Parce que l'amour s'exprime, est tellement difficile à s'exprimer. Alors, l'amour, Dieu est amour, Dieu est intelligent. La science de Dieu. Ça fait beaucoup de notions analogiques. Hein, avec à relever tous les attributs de Dieu, toutes les manières dont Dieu se dit. La vie. Dieu est vivant. Quand je dis Dieu est vivant, c'est pas métaphorique. Pour des quantités de gens aujourd'hui, oui, c'est métaphorique. Parce qu'ils pensent la vie qu'au niveau biologique. Eh bien, c'est la grande difficulté pour certains. Alors, ne pensant la vie qu'au niveau biologique, l'intelligence n'est pas vivante. Pas découvert l'esprit. L'esprit, c'est une notion. Faites toute la liste, c'est très intéressant. C'est une purification du langage merveilleux de voir toutes les notions analogiques pures qui peuvent servir à la théologie scientifique et puis les notions d'analogie symbolique. J'en prends quelques-unes ici. Alors c'est pour ça que c'est très intéressant de se rendre compte de certaines notions. Je suis roi. J'ai pas le droit de laisser tomber une affirmation comme celle-là. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière. Je suis la porte. Ces notions impliquent quelque chose de sensible et donc impliquent un langage symbolique. Et je m'en sers pour une théologie mystique. Dans la théologie mystique, il y a tout le mystère de la royauté du Christ. Mais quand j'ai dit Jésus est tête, alors là c'est encore une notion au contraire, aussi très intéressante à voir, tête. Quand je dis main, la main de Dieu, et le bras, et les pieds, toutes les notions analogiques qui sont liées au devenir, qui sont tout un langage symbolique. Alors l'écriture passe de l'un à l'autre sans qu'il y ait d'art. Ça c'est bien évident. L'écriture passe de l'un à l'autre sans qu'il y ait d'art. Alors, Dieu, quand il me parle, parle un langage paternel, et parce que ce langage paternel, il implique les deux. Il m'enseigne. Il éduque mon cœur, il éduque mon intelligence, pas un langage paternel. Alors c'est pour ça que certains disent, puisque Dieu confond les deux, il n'y a pas le mal, et répondez-moi, confondant les deux. C'est une objection que j'ai entendue par des théologiens. Dieu parle ce langage, mais répondons à Dieu de la même manière, la même manière dont il nous parle. Oui, c'est comme un gosse quand son père lui parle, il dit, ah, je vais te parler comme toi. C'est exactement de la même façon. Qu'est-ce qu'il dit? Non, le père dira, attention, toi tu n'as pas l'expérience, tu ne sais pas. Parle avec intelligence, voilà ce que je te demande. Et parler avec intelligence, pour nous, c'est comprendre que le mystère de Dieu nous dépasse tellement que Dieu ne peut pas nous révéler autrement qu'en mélangeant, parce que c'est un langage paternel, mais il veut que nous fassions la distinction entre les notions propres et les notions proprement analogiques. L'Église le veut. L'Église le maintient. Autrement, l'Église dirait, ne vous occupez plus de saint Thomas. C'est complètement dépassé. Si vous ne faites pas la distinction entre les notions analogiques propres et les notions proprement symboliques, ben, vous n'arriverez plus au bout d'un certain temps, à savoir le contenu de la foi. Vous refusez, voyez, vous refusez de mettre l'intelligence au service de la foi. Or, mon intelligence est une intelligence séparée et une intelligence qui s'exerce avec l'imagination. L'intelligence séparée est capable de notions analogiques propres Et l'intelligence liée dans son exercice avec le sensible est une intelligence qui se sert du symbole. C'est parce que c'est l'intelligence humaine et nous devons répondre à Dieu comme des fils de Dieu qui mettent leur intelligence au service de leur foi. Et si on met son intelligence au service de sa foi, c'est justement faire ce discernement. Parce qu'on est des êtres intelligents. D'une intelligence qui doit remonter jusqu'à Dieu. Ça, il faut y réfléchir beaucoup. Et ça recouvre toutes les études que nous faisons du côté proprement théologie fondamentale. C'est ça qu'on doit essayer de bien saisir. Alors, vous le saisissez un tout petit peu, mais c'est déjà quelque chose de le saisir un tout petit peu. Puis progressivement, on arrive à comprendre ça et à faire le discernement nous-mêmes. Je suis roi. Alors, quand Jésus dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Un langage métaphorique, un langage symbolique, a quand même une signification. Hein, faut pas dire que ça n'a pas de signification. La royauté, c'est celui qui exerce l'autorité. Et qui exerce une autorité suprême. Rien n'est au-delà. C'est comme quand Jésus dit « Seigneur, Kurios ». C'est César qui est Kurios. Faut pas l'oublier, c'est l'autorité suprême. Seigneur. Pas Seigneur, quand vous dites à quelqu'un un Seigneur, vous n'allez pas lui dire « Je vais m'en référer à une autorité suprême au-dessus de toi. » Non, c'est juste l'inverse. Quand on dit « Kurios », quand on reconnaît l'autorité suprême, on ne s'en réfère pas à une autorité au-dessus. Se référer à une autorité au-dessus, c'est relativiser l'autorité. Eh bien, l'autorité royale, c'est une autorité suprême. Et cette autorité suprême, c'est le discernement à l'égard de la vie et de la mort d'une personne. Et ça, je crois à ce qu'il y a de tout à fait propre au roi. Ça, ce qui demeure dans toute royauté, où il y a encore une royauté, même si elle est extrêmement atténuée, si elle est extrêmement relativisée, la royauté demeure tant que le roi ou la reine ont ce pouvoir. Je crois que le jour où on supprimerait la royauté. Il me semble bien que c'est ça le propre du pouvoir royal, de l'autorité royale. Donc c'est vraiment dans un jugement, un discernement à l'égard de la vie et de la mort. Donc quand Jésus dit ça, Jésus veut montrer qu'il a une autorité absolue au-delà de laquelle je ne peux pas remonter. Je suis. Mais dans un domaine totalement différent de celui de Pilate. Ce n'est pas une royauté temporelle. Et c'est bien ça, ce n'est pas une royauté temporelle. Mon royaume à moi n'est pas de ce monde. Le monde, c'est justement l'aspect temporel. Si mon royaume à moi était de ce monde, mes gens à moi auraient combattu pour que je ne puisse pas livrer aux Juifs. Mais non, mon royaume à moi n'est pas d'ici. Donc, c'est un royaume qui n'est pas temporel. Jésus ne précise pas plus. Moi, c'est pour cela. C'est le royaume de la vérité. C'est la première précision que Jésus fait. Son royaume est un royaume de vérité. Moi, c'est pour cela que je suis né. Et c'est pour cela que je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Le premier exercice, ou si vous voulez, le premier fruit de sa royauté, c'est d'être témoin de la vérité. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Tous ceux qui sont pour la vérité, tous ceux qui aiment la vérité, ceux-là font partie du royaume du Christ. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? La grande interrogation qui demeure. Hein. elle demeurera tout le temps et vous interprétez ça de multiples manières. C'est très intéressant, vous voyez, de voir que ce qui est au cœur de la royauté du Christ est extrinsèque à Pilate. Qu'est-ce que c'est que la vérité ? Il ne sait pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'intéresse pas, ça ne veut pas dire qu'il dit ça à titre de sceptique. Pilate n'était pas sceptique, Pilate c'est stoïcien. Et ça je crois que c'est un stoïcien. Pour les stoïciens, la vérité ça a un sens. Mais un royaume qui soit un royaume dont la première chose soit d'être témoin de la vérité, ça alors ça dépasse de beaucoup le stoïcisme. C'est tout à fait autre chose. Et alors, qu'est-ce que c'est que la vérité ? Pour que ça finalise une vie. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Mais qu'est-ce que c'est que la vérité ? On ne peut pas dire que ça finalise la vie de Pilate. Même si Pilate cherche un tout petit peu de savoir ce que c'est que la vérité, ça lui dépasse. Ayant dit cela, de nouveau, il sortit vers les Juifs et leur dit, « Pour moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Thank you.